Eh bien, mes amis, dans cette dernière matinée du 3 février 91, nous allons considérer ces chapitres dont vous avez fait déjà la lecture, sur lesquels vous vous êtes penchés, cherchant à comprendre ces paroles de Paul. Et je pense que, comme moi, vous vous serez dit, commencez au chapitre 9, il aurait fallu voir les 8 autres premiers chapitres, qu'est-ce qu'il y avait avant. Alors, pour résumer cela très brièvement, je dirais que les 8 premiers chapitres, on peut les comparer à l'histoire de l'enfant prodigue. Chapitre 15 de Luc. Vous avez une parabole que Jésus enseigne, qu'un homme avait 2 fils, et que le plus jeune a voulu vivre sa vie, et il est allé dans le monde vivre selon les convoitises que le monde peut offrir, en suivant les regards de ses yeux. Mais il est arrivé à un moment donné où, ayant tout dépensé, étant gardien de pourceaux, n'ayant pas même ce que les pourceaux mangeaient, il est rentré en lui-même. Parce que, vous savez, quand on s'éloigne de la maison paternelle, c'est qu'on est un peu fou, on est hors de soi. Et pour retrouver vraiment le Père, il faut rentrer en soi-même. Il est rentré en lui-même, puis il a découvert au fond qu'il avait un père, alors que plus personne ne s'occupait de lui, il était malheureux comme tout. Il dit, je m'en irai, je retournerai vers mon père. Et vous savez ce qui est arrivé, il allait confesser son péché et tout cela, et le père n'a pas attendu sa confession, il lui ouvre les bras, il l'attendait au fond, le père ne faisait que attendre le retour de son fils. Il a toujours cru que le fils reviendrait. Et il regardait de ce côté-là. Il l'a vu de loin. Il a couru à sa rencontre. Et quoi qu'il soit en haillons, il l'a serré sur son cœur. C'est une histoire merveilleuse, hein, l'histoire du fils prodigue. Et il l'a couvert de baisers. Il disait, mon fils, que voici. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Pourtant, le père aurait pu mourir pendant que le fils faisait les 100 coups ailleurs, hein. Il aurait pu retrouver une maison vide, le père, non, c'est pas le père qui est mort. Qui est-ce qui est mort? Qui est-ce qui était mort réellement? C'était le fils. Il apprend qu'il était mort, mais il est revenu à la vie. Alors le père le revêt de la plus belle robe, et puis le fait entrer dans la maison, l'alliance lui est donnée, et au fond, c'est l'histoire des païens qui sont convertis. Mais voilà qu'il y a un second fils, c'est le fils aîné, qui lui est resté à la maison, et qui n'a jamais fait les 100 coups, mais dont le cœur n'était pas meilleur. Et le fils aîné, dans la parabole, est l'image du peuple juif, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas accepter que les païens soient sauvés et soient pardonnés. Alors, dans les 8 premiers chapitres, au fond, vous avez l'histoire du fils prodigue. Nous étions tous des pécheurs, il n'y a pas de différence entre juifs, entre grecs, nous sommes tous coupables. Et puis, il y a toute l'œuvre de la régénération qui nous est racontée, comment nous étions morts spirituellement. Et puis, l'œuvre du Christ qui nous a sauvés. Et nous arrivons au chapitre 8. Qu'il n'y a maintenant plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce que le fils prodigue a réalisé. Alors voilà l'histoire résumée des 8 premiers chapitres. C'est la grâce de Dieu envers un prodigue, envers un païen, si vous voulez. Puis l'histoire du chapitre 9, 10 et 11, eh bien, on va y voir un petit peu le fils aîné, qui n'est pas du tout content, n'est-ce pas, de voir ce que le père a fait pour le prodigue. Et c'est bien pour ça que Jésus avait enseigné cette parabole. Alors, j'ai dit juste là pour résumer ces 8 chapitres que vous n'avez pas pu lire maintenant, mais qui, je l'espère, puisque ici, dans une de ces retraites, on a fait le chapitre 8, vous vous souvenez, hein? La fin du chapitre 8, on l'a étudié, ces versets d'une façon très profonde. Alors, nous demandons maintenant au Seigneur qu'il nous dirige dans les moments que nous avons encore à passer ensemble, et que ce soit lui qui dise les paroles qui doivent être dites et qui doivent correspondre aux besoins de vos cœurs. Que ce ne soit pas moi qui vous parle, qui vous dise ce que je pourrais comprendre, mais que ce soit le Seigneur au milieu de nous qui nous enseigne et que vous ayez des réponses précises à des besoins précis. Que ce ne soit pas une réunion de remplissage intellectuel, mais une réunion qui correspond à vos besoins. Je l'ai supplié le Seigneur, je me tiens devant lui, même dans ma petite promenade, en lui disant, donne-moi de pouvoir répondre aux besoins personnels de chaque individu. Moi, je ne les connais pas, vos besoins. Je ne sais pas quelle est votre vie familiale, sociale, vos difficultés, vos peines. Mais Dieu les connaît. Alors, que je ne sois que son instrument et qu'il vous donne les réponses de son cœur et de son amour pour que vous ne repartiez pas frustré ou déçu. Qu'on soit déçu de moi, ça c'est toujours possible, mais que vous ne soyez pas déçu de Jésus qui est au milieu de nous et c'est lui seul qui compte, Dieu notre Père. Toi qui as pris tout ton plaisir dans ton Fils, accorde-nous cette grâce ce matin de ressentir tellement la présence réelle de Jésus au milieu de nous que nous recevions vraiment ce plaisir qui est en ton cœur, qui l'entre dans notre cœur, et que nous puissions être en harmonie avec toi, au même diapason que toi, ô Dieu, pour connaître ton bonheur, et devenir des enfants de Dieu qui manifestent même sur leur visage, au travers de leurs épreuves, au travers de leurs souffrances, qu'ils ont un Père qui ne les abandonne pas. Et qui leur a tout pardonné. C'est la grâce que nous te demandons. Et que le peu de temps qu'il nous reste à vivre, nous puissions le vivre pour toi, dans ton âme. Et vivre pour toi, c'est vivre pour les autres. Donne-nous de nous oublier nous-mêmes. Et qu'en te contemplant, notre visage puisse rayonner. Peu importe le reste. C'est ce que nous te demandons en Jésus. Amen. Alors vous voyez, je reviens toujours à la dernière question d'hier soir, pour toujours lier, pour vous montrer qu'il y a quand même un plan, un lien. On avait dit hier soir pourquoi le royaume n'avait pas été établi, parce que le roi a été rejeté. Puis on disait où trouver dans toute la prophétie la mission et l'espérance. Non, c'est pas ça hier soir. Je m'excuse. La vieillesse qui arrive à grands pas, au galop. Alors, y a-t-il un enseignement pour les croyants de l'Église dans l'Ancien Testament? On a dit que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a la révélation de ce qu'est l'Église. Mais alors, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on a un enseignement qui peut être utile à l'Église? Alors, je voudrais juste vous donner ces exemples. Dans Romains, justement, chapitre 15, Romains 15, il nous est dit ceci, au sujet des Écritures, un verset que vous connaissez certainement, verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est toujours la prophétie, ça, c'est l'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Donc vous voyez que ça vaut la peine de lire l'Ancien Testament, même s'il n'est pas question dans l'Ancien Testament de l'Église en tant que peuple, mais on a un enseignement à recevoir de l'Ancien Testament, de toute cette histoire d'Israël, et on est consolé par toutes ces vies d'hommes de Dieu qui ont eu les mêmes passions que nous, qui ont eu les mêmes défauts, mais qui se sont jetés éperdument dans les bras de Dieu et qui ont été secourus et qui ont appris justement la patience, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Il y a des gens qui viennent nous dire, oh, vous savez, moi je demande à Dieu la patience. Mais là, il y a le chemin. Vous demandez à Dieu la patience, oh, oui, Seigneur, envoie-moi la patience comme une colombe qui va descendre. Tu veux la patience? Lis les Écritures. Qu'est-ce qui donne la patience? C'est la lecture des Écritures. C'est comme ça que vous êtes enseigné. Alors vous avez maintenant un motif pour lire les Écritures. Vous voulez de la patience? Eh bien, lisez les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui donnent la patience. Et puis vous voulez être consolé? Eh bien, lisez les Écritures, en particulier les psaumes, et vous y trouverez des consolations merveilleuses. Puis vous direz, mais ça s'applique à moi, c'est pour moi cela. Alors, selon vos besoins, prenez ces paroles pour vous, ces promesses, la patience et la consolation que donnent les Écritures. Nous possédions quoi? L'espérance. Si vous voulez vraiment vivre d'espérance, lisez les Écritures. Et vous verrez qu'il y a une espérance. Je me souviens qu'en France, on m'avait demandé pour une conférence avec d'autres pasteurs. Et le pasteur qui organisait tout cela, c'était à Valence, en France. Il m'écrivait, nous nous sommes penchés là pour préparer ce thème et nous ne trouvons guère d'espérance dans les Écritures. Comment est... Alors, ça vous démolit. Mais quelle écriture est-ce qu'il lit? Ils ne la lisent pas. Mais ils lisent un tas de bouquins théologiques, et puis, c'est plus une espérance, comprenez-vous? Heureux les saints qui croient encore à la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus y croyait à l'Ancien Testament. Et c'est ça pour moi son autorité. Je n'ai pas besoin de faire toutes les études possibles pour savoir que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Et lui ne pouvait pas se tromper, sinon il ne serait pas le Fils de Dieu. Comprenez-vous? Alors, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, donc s'il est Dieu, il ne peut pas se tromper. Alors, c'est lui qui vous conseille de lire les Écritures, parce que c'est en elles que vous avez la vie éternelle. Et là, vous apprenez que vous posséderez l'espérance, que le Dieu de la persévérance, parce que quand on lit quelque chose, il faut persévérer, hein, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez les Écritures, ça vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Vous apprenez non pas seulement à aimer Dieu, mais à aimer votre prochain, avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, afin qu'ensemble, que tous ensemble, d'une même bouche, nous glorifions Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et donc, à cette question, que je n'ai pas pu développer beaucoup hier soir, y a-t-il un enseignement pour les croyants de l'Église dans l'Ancien Testament? Bien sûr. La révélation de l'Église est donnée dans le Nouveau Testament. Ce peuple qui est sorti du judaïsme et du paganisme, mais toutes les Écritures donnent un enseignement à l'Église. Nous pouvons prendre des exemples. Et un autre passage que je vous laisse aussi pour vous montrer l'importance de lire l'Ancien Testament, chapitre 10 des Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, où il est parlé de ce qui s'est passé au temps de Moïse au Sinaï, dans la traversée du désert, tous ces gens, verset 3, qui ont mangé le même aliment spirituel, c'était quoi dans le désert? La manne. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ, vous voyez. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà, vous avez vos exemples dans les Écritures. C'est pourquoi j'aime toujours à donner mes exemples en les prenant dans les Écritures, parce que ça vous donne une connaissance des Écritures. C'est ça qui est fantastique avec la Bible, c'est qu'elle a des exemples vivants. Vous voyez des hommes, des femmes qui se trouvent dans une situation que nous pouvons nous connaître, puis nous voyons comment ils ont agi. Alors, je sais que je n'ai pas à faire passer ma femme pour ma sœur, par exemple, hein, parce que j'ai l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas ? Et il y a bien d'autres choses. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, que nous ne devenions pas idolâtres, etc., et que nous ne tombions pas dans la débauche. Et verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Diront, mais c'est un vieux livre, la Bible, n'est-ce pas? C'était pour un autre peuple, d'un autre âge, de sorte que on en a assez de ces doctrines judéo-chrétiennes. Vous lisez ça dans les journaux même théologiques d'aujourd'hui. Alors il faut le nouvel âge, hein? Il faut quelque chose de nouveau. Non. Eh bien, revenez à la parole, hein, parce que le nouvel âge prépare l'ère de l'Antichrist. Alors, mes amis, revenez à la parole. C'est ma mission de vous indiquer que la vérité, vous l'avez dans les Écritures, et les Écritures, c'est déjà tout l'Ancien Testament. Et il est dit dans, je peux encore vous citer un troisième verset, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, et nous rendre parfaitement propres à toute bonne œuvre. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on devrait être, si on est sauvé, propre à toute bonne œuvre. On devrait être de ceux qui ne sont pas oisifs ni stériles, comme on l'a lu dans le premier, dans notre première soirée. Alors, voilà, qui nous montre ce que l'on peut trouver comme enseignement et qui concerne aussi ce peuple qu'est l'Église, mais que nous trouvons vraiment dans le Nouveau Testament et où il n'y a plus ni juif ni grec. Alors, maintenant, on arrive à nos lectures. Nous répondrons ça à la fin. Après la lecture de ces trois chapitres de l'Épître aux Romains, avez-vous une conviction au sujet de l'avenir d'Israël? Qu'est-ce que vous avez répondu dans vos acquis? Est-ce qu'il y a encore un avenir pour Israël ou bien c'est fini? Il y a encore un avenir, hein? Mais il faut sonder les Écritures pour savoir quel est cet avenir. Et puis, quelle est la menace qui pèse aujourd'hui sur la chrétienté? Bien, je pense que vous l'avez vu aussi. C'est quoi? C'est d'être retranché, rejeté. Parce que la chrétienté, c'est pas l'Église, hein. Souvenez-vous bien de ça. Faut pas confondre chrétienté et Église. Tout le monde est chrétien maintenant dans nos pays, soi-disant. Hein? Mais qui est-ce qui est vraiment chrétien? En Christ. Ce qui compte, c'est être en Christ. C'est pas de naître dans une famille catholique, protestante ou évangélique qui fait de nous un racheté. C'est d'avoir une foi personnelle au Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans ces chapitres. Et je veux croire que vous aurez bien des réponses. Alors, vous voyez, l'apôtre Paul, maintenant, qu'il nous a présenté les compassions de Dieu et son immense amour pour le monde perdu pour les païens, jusqu'au chapitre 8, comme pour les juifs, eh bien, pour ceux qui l'acceptent, il nous montre ce problème de l'incrédulité d'Israël. Parce que, donc, Jésus est venu chez les siens, c'était un juif, les siens ne l'ont pas reçu. Alors, c'est un problème pour l'apôtre Paul. Puis, lui-même, il était juif, et il a été d'abord opposé. Et alors, quand il s'est converti, ça a fait du bruit, parce que peut-être que Paul, s'il avait Saul de Tarse, s'il avait continué dans sa ligne, il serait devenu peut-être le souverain sacrificateur à Jérusalem. Il était appelé à de hautes charges selon le monde. Mais une fois qu'il a rencontré Christ, il dit que tous les avantages qu'il avait selon la chair, il a considéré ça comme une perte, comme des ordures. Il a préféré le Christ. Il y a eu un choix à faire pour lui. Mais lui, il était absolument sincère dans sa religion. Il croyait qu'il avait la seule vraie religion. Et il a dû apprendre que sincérité n'était pas synonyme de vérité. Quand on vous dit, il suffit d'être sincère, hein, toutes les religions sont bonnes, il suffit d'être sincère, c'est pas vrai. Il y a la vérité, et nous devons la rechercher, ça suffit pas d'être sincère, parce que vous pouvez être sincère et dans l'erreur. Et ça marche pas. Moi, je me souviens, on peut être sincère, mais parce qu'on est aussi dans l'ignorance, on nous a laissé dans l'ignorance. Je l'ai raconté quelques fois, j'ai fait des camps depuis 55 ans, eh bien, je prenais toujours avec moi en France pour aller en Italie faire mes camps, je remplissais mon auto, j'étais une Citroën où il y avait pas mal de place, je prenais tous les jeunes que je pouvais avec moi, puis on allait à Florence, bon. Mais j'avais pris des jeunes filles, qui une est devenue ma belle-fille, mais elle avait 16 ans, je pense. Puis j'arrive à la frontière, je pensais, moi je suis bien en règle, mais voilà que les douaniers ne m'ont pas laissé passer. Je m'étais levé à 5 heures du matin pour passer avant tout le monde, très tôt à la frontière de Monaco, là, Menton. Puis voilà, les douaniers, ils me trouvaient bien sympathique, mais avec des jeunes filles là-dedans, c'était peut-être un homme qui partait. Je peux être pasteur, tout ce que vous voulez, ça colle pas. La loi, c'est la loi. Et il m'a dit, il faut un papier. Mais la mère de ces jeunes filles ne savait pas même écrire. Elle faisait une croix seulement pour sa signature. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on est censé ignorer la loi, mais ça, je ne savais pas. Je pensais, je suis un père et il y avait mes filles qui étaient là aussi. Bon, j'ai dû retourner à Nice, refaire tout le chemin. Alors, vous voyez, on est un peu contrariés. Parce que je dois arriver le soir, puis j'ai la conférence le soir à Florence, et c'est long encore. On est retourné à Nice, puis à 10h, alors qu'il y avait toutes ces voitures, les grandes queues, j'arrive là. Mais c'est là que vous voyez la grâce de Dieu. Ils m'ont reconnu, qu'il y avait des agents, puis ils m'ont fait passer devant là, comme ça, presque, comme je fais maintenant quand vous m'en au petit déjeuner. C'est pour dire, ces agents là, mais on vous connaît là, j'avais les papiers, j'ai plus papiers. Vous voyez, la grâce de Dieu, mais devant la loi, ben, nul n'est censé l'ignorer. Ça colle pas. Alors, vous voyez, on peut être sincère, j'étais très sincère avec ces jeunes filles. J'allais pour les enseigner aussi, puis leur donner la possibilité de voir un autre pays. Parce que les possibilités que Dieu nous donne, il faut les donner pour les autres. Alors que ce Saul de Tarse, lui, il était sincère, mais dans l'erreur, et il l'a reconnu. Alors vous voyez, moi je trouve ce verset premier du chapitre 9, je trouve fantastique. Je dis la vérité en Christ. Vous voyez, il prend Christ comme témoin. Je dis la vérité en Christ, donc il ne va pas mentir en Christ. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas mentir quand on est en Christ. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Donc, il affirme qu'il ne ment point. Puis ensuite, ma conscience m'en rend témoignage. On peut le regarder dans les yeux. Hein. Parce que quand on a mauvaise conscience, on peut... Les yeux, on n'ose pas regarder son prochain. Ma conscience m'en rend témoignage, et ce témoignage, il dit qu'il vient par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est lui de l'apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons le croire dans ce qu'il dit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Parce que quand il s'est converti, on a dit que, au fond, c'était une trahison. Il quittait le judaïsme. Et il allait vers les païens. Eh bien, Paul dit non, mais quand je vois mes frères selon la chair, j'ai une grande tristesse. Car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire maudit, excommunié, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Vous voyez comme on a besoin d'apprendre de Paul. Il dit pas j'ai une tellement grande joie d'être sauvé, et tant pis pour mes frères qui sont perdus. C'est pas cela, hein. Quand vous dites toujours moi je suis un sauvé, puis les autres sont perdus, attention, hein. Toute ma famille, moi je suis le sauvé, je suis le seul sauvé de ma famille, puis les autres. Bon. Eh bien, apprenez quelque chose de l'apôtre Paul. J'ai une grande tristesse, j'ai un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être perdu en quelque sorte, hein, et séparé de Christ pour que mes frères, eux, mes parents, soient sauvés. C'est beau, hein. Voilà ce qui doit vous saisir, vous empoigner. Je désire que les miens soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, peut-être qu'il faut que je montre davantage le Christ en moi, parce qu'ils n'ont pas envie de mon Jésus. J'en parle trop. Et on parle de Jésus à tort et à travers. Et on ne manifeste pas la vie de Jésus. Et c'est ça qui est dangereux. On colle des étiquettes de Jésus sur les automobiles, c'est éclaboussé par la boue, mais on pense qu'on a évangélisé. C'est pas ça, hein. C'est pas de mettre une étiquette sur votre auto, mais c'est d'avoir le Christ dans votre cœur. Qu'on compte que vous êtes des hommes et des femmes habités par le Seigneur. Qui ne parlait pas d'un être qui est au fond du ciel. Ça ne les intéresse pas, votre entourage. Ce qu'ils voudraient voir, c'est la vie de Jésus en vous. Eh bien, Paul dit, moi je voudrais plutôt être perdu pour que les autres soient sauvé. À qui est-ce qu'il ressemble, Paul, là? Un grand homme de l'Ancien Testament? Moïse, n'est-ce pas? Moïse, quand Dieu lui a dit, je n'en peux plus ce peuple d'Israël, je vais l'exterminer et je ferai de toi un grand peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit? Efface-moi de ton livre, mais sauve le peuple. N'est-ce pas? Efface-moi plutôt que moi je sois perdu, mais que les autres soient sauvés. Alors voyez, Paul, c'est le Moïse du Nouveau Testament. C'est ça qui est tellement merveilleux. Et quand on est vraiment sauvé, on a ce désir que les autres le soient. Mais on ne parle pas n'importe comment du salut. On cherche à montrer ce que c'est que le salut, ce que c'est que être sauvé. On ne se plaint pas toujours de nos misères et de notre situation. On rend grâce à Dieu pour toutes choses. Et quand on rend grâce, on est heureux. Et le monde voit qu'on a un père. Et en voyant le visage d'un enfant, on voit quelle sorte de père il peut avoir. Un enfant qui a un bon père, eh bien l'enfant, il est heureux. Comprenez-vous? Mais s'il est battu à la maison, s'il est humilié, et on ne s'occupe pas de lui, il emporte sur le visage les marques. Et on se demande bien de quelle famille se trouve-t-il. Alors vous voyez, verset 4, ils sont israélites, donc ils ne relient pas. Sa conversion au Christ ne lui a pas fait relier Israël. Il est israélite lui-même, selon la chair. Alors il dit, ils sont israélites. Et il reconnaît tout ce qu'Israël possède, à qui appartiennent l'adoption. L'adoption dans le sens que Dieu a choisi ce peuple en Abraham. Il a au fond adopté Abraham comme son fils pour qu'il soit père d'un grand peuple. Alors, il reconnaît l'adoption. La gloire, le Dieu de gloire est apparu à Abraham alors qu'il était en Mésopotamie, donc dans ce fameux Irak. Et puis, les alliances, à qui est-ce qu'elles ont été faites? Avec Abraham, avec Israël, avec Isaac, avec Jacob. Donc toutes les alliances sont en Israël. Et puis, la loi, à quel peuple est-ce qu'ils ont la loi a été donnée? Aux Juifs, n'est-ce pas? À Israël. Alors, il reconnaît tout cela. À ce peuple dont j'étais, eh bien, il y a l'adoption, il y a la gloire, il y a les alliances, il y a la loi, et puis le culte qui était célébré à Jérusalem, c'était un culte que Dieu avait ordonné, et les promesses, disait l'Ancien Testament, elles étaient faites pour Israël, s'il suivait les voies du Seigneur, il pouvait être béni. Il y avait des promesses pour la terre d'Israël. Et puis, les patriarches, ils venaient d'où? C'était d'Israël aussi, hein? Abraham, Isaac, Jacob. Et de qui est issu selon la chair? Qui? Le Christ. Alors vous voyez qu'on ne peut pas être chrétien, authentique et anti-sémite. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être contre Israël quand vous prétendez que vous avez pour sauveur qui? Le Christ. Le salut vient des Juifs. De sorte que vous n'allez pas vous laisser embarquer dans un mouvement anti-juif. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont des gens parfaits, loin de là, et qu'ils ne font que le bien, loin de là, et qu'ils traitent les Arabes à la manière dont Dieu voudrait qu'ils soient traités, c'est pas ça. Hein. Ils ont bien des erreurs, bien des manquements aussi, mais ce n'est pas pour autant que l'on va se mettre contre les Juifs, parce que c'est le peuple de Dieu qui a été choisi par Dieu. C'est de lui qu'a été issu le Christ, qui est quoi? Dieu béni éternellement. Vous voyez que Christ, qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu béni. Il y a un seul Dieu, un Dieu unique, Dieu béni éternellement. Mais vous voyez que ça ne veut pas dire que c'est là, par exemple, que vous pouvez voir l'erreur des témoins de Jéhovah, qui nie la divinité de Jésus-Christ. Le Christ est Dieu béni éternellement. Alors, à quoi ça sert de vous endoctriner, de lire les livres des témoins de Jéhovah pour en arriver à la conclusion que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il ne croit pas à la Trinité. Alors, vous perdez votre temps, et puis, vous allez vous éloigner de la parole de Dieu. Alors, restez fidèles à la parole de Dieu. Il y a des bouquins, des choses où vous perdez votre temps, vous mettez ça de côté parce que vous voulez la parole de Dieu. Alors, quand on vous dit que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous voulez étudier toute cette doctrine qui va essayer de vous prouver que Jésus n'est pas Dieu? Non. Alors, de cela, on se sépare. Bon. Christ est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen?
Amen.
Il est Dieu béni éternellement. Bon, voilà. Alors voilà l'introduction de Paul. Ce n'est point à dire, verset 6, que la parole de Dieu soit restée sans effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de juifs qui sont incrédules. Mais il dit, la parole pourtant n'est pas restée sans effet. Lui-même a été sauvé, lui-même a cru. Et les premiers apôtres, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des juifs. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui a été sauvé? Des juifs. Donc la parole n'a pas été sans effet, c'est ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Il y a une incrédulité terrible parmi les juifs, mais il y a pourtant un résidu. Le début de l'Église a été formé par des juifs. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu, vous voyez, l'évangile c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, cette parole prophétique, soit restée sans effet. Car ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ce ne sont pas les enfants naturels qui sont les vrais fils d'Abraham. Ce sont ceux qui, comme Abraham, ont cru. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Mais Abraham a eu d'autres enfants naturels que Isaac. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu Ismaël. Et puis, il a eu d'autres enfants avec Keturah après la mort de Sarah. Alors, donc, tous les descendants d'Abraham ne sont pas Israël, n'est-ce pas ? Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et Israël, à qui est-ce qu'on a donné le nom d'Israël ? À Jacob, n'est-ce pas ? À Jacob. Alors, il faut comprendre cela. Et mettre toujours en pratique, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être une interprétation particulière. Il faut voir ça dans l'ensemble. Jacob, donc, c'est lui qui a été appelé Israël. Mais les descendants de Jacob ne sont pas nécessairement tous Israël, car il y a eu qui ? Descendants de... Les enfants d'Abraham, ça a été Isaac. Mais Isaac a eu Jacob et Ésaü. Alors on va y arriver, n'est-ce pas ? Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et Jean-Baptiste, lisez cela avec ce que Jean-Baptiste dit. Quand tous ces Juifs venaient à son baptême, ils prétendaient être les enfants d'Abraham. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste leur disait ? De ces pierres, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. C'est pas parce que vous êtes descendant d'Abraham que nécessairement vous êtes sauvé, n'est-ce pas ? Le salut ne vient pas de cet héritage génétique. Non ! Et Jésus, je vous l'ai dit, quand on lui a dit « ta mère et tes frères te cherchent », qui est ma mère et qui sont mes frères, qui sont vraiment au Seigneur, ce sont ceux qui croient la parole. Quand une femme s'est écriée « Bienheureuse, le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité », qu'est-ce que Jésus a répondu ? Bienheureux plutôt ceux qui croient la parole et qui la mettent en pratique. Comprenez-vous ? Alors, ça, c'est bien aussi pour tous les enfants de chrétiens. C'est pas parce que vous êtes né dans une famille pieuse que nécessairement vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez avoir une foi personnelle. C'est pas la foi de vos parents qui va vous sauver. C'est votre foi personnelle au Seigneur Jésus. C'est cela que cela veut dire. Alors, Abraham est appelé le père des croyants, de ceux qui croient, qui ont la foi d'Abraham. Ce qui a sauvé Abraham, c'est d'avoir la foi. Et plus loin, il est dit, en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Et qu'est-ce que la postérité d'Abraham, en définitive ? C'est le Christ. Et nous voyons bien que cela n'est pas encore arrivé pleinement. Toutes les nations ne sont pas encore bénies par le Christ, mais cela viendra. Donc il y a aussi, salut quand les Arabes me disent, mais est-ce qu'il y a des promesses pour nous les Arabes ? Oui, il y en a. Le Seigneur aussi sera en bénédiction aux Arabes. Toutes les nations de la terre, dont vous n'excluez personne, seront bénis en sa postérité. Mais ce n'est pas parce qu'on est descendant d'Abraham par Ismaël qu'on est fils d'Abraham. Comprenez-vous ? Parce que Ismaël n'a pas marché dans les voies d'Abraham, son père. Et même maintenant, en Isaac, alors, nous lisons verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Vous voyez bien qu'avec Jean 1, verset 12, il faut naître de nouveau. Ce n'est pas la chair et le sang qui nous font naître enfants de Dieu. On est créature de Dieu, mais c'est en recevant le Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. Et on devient enfant de Dieu quand on est de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. C'est comme ça que la langue prophétique vous éclaire, n'est-ce pas? Vous n'isolez pas un verset, mais vous allez chercher d'autres versets qui vont l'éclairer. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, ceux qui ont cru, qui sont regardés comme la postérité. Donc les chrétiens authentiques peuvent être regardés comme la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans le message de Nouvel An, je montrais que en Irak, tout le monde se réclame d'Abraham en quelque sorte, par trois femmes, les juifs par Sarah, les musulmans par Agar, et puis les chrétiens par Marie, qui est descendante d'Abraham. Vous voyez, alors on est tous fils d'Abraham. Vous voyez. Mais il faut plus que cela. Voici en effet, verset 9, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, alors ça c'est l'histoire que vous lisez dans la Genèse, hein, et Sarah aura un fils. Elle, il a cru, ils ont tous ri. Ils ont tous ri. Oh, c'est pas possible, mais justement, Dieu est le Dieu de l'impossible, et vous devez le croire. Et de plus, il fut dit à Rebecca, alors ça vous retournez dans la Genèse, chapitre 25, parce que c'est des citations qui sont faites, alors il faut bien se rafraîchir la mémoire, vous retournez dans la Genèse, chapitre 25. Elle conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, elle n'avait fait ni bien ni mal, quand elle est allée faire son échographie, elle l'a fait auprès de Dieu. Hein. Et là, elle a su qu'il y en avait deux. Vous voyez, les échographies, on croit que c'est moderne. Mais là, elle avait déjà son échographie. Vous avez fait dans la Genèse. C'est vrai. Comme j'ai dit que l'inventeur de l'anesthésie, c'était qui? C'est Dieu, il a endormi Adam pour faire son opération. On croit toujours qu'on a tout trouvé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et tout ce qu'on sait, on le sait de Dieu. C'est lui qui a donné l'exemple de tout cela. Dieu n'est pas pour la douleur. Mais, comprenons. Alors, les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que si Dieu est Dieu, il est souverain. Et on n'a pas à discuter avec lui sans savoir qu'il ne serait pas Dieu. Il y a un être au-dessus de nous qui peut faire ce qui lui plaît. Parce que si ce n'est pas cela, eh bien, ce n'est pas Dieu. Alors, je me prosterne devant lui et j'adore. Il peut décider ce qu'il veut. Et vous voyez, sans dépendre des œuvres, c'est pas à cause des œuvres qu'on devient enfant de Dieu. Son élection, c'est une pure grâce. Et par sa seule volonté de celui qui appelle. Pourquoi est-ce que je suis sauvé? C'est parce qu'il m'a appelé. Et alors, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ça, c'était la volonté de Dieu. Hein. Mais attention ici, parce que là, vous pouvez douter sur ce verset. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et vous sortez ce verset de son contexte et vous dites, ben alors, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que Dieu a préféré Jacob à Ésaü? Et vous sortez ce verset de son contexte et vous dites, ben alors c'est pas juste. Pourquoi est-ce que Dieu a préféré Jacob à Ésaü? Mais ce verset-là, où le trouvez-vous? Est-ce que c'est au temps de leur enfance que Dieu a haï Ésaü?
Non.
Avant qu'il ait fait ni bien ni mal, Dieu aurait de la haine contre quelqu'un? Où est-ce que ce verset est écrit? Puisque notre thème, nous voulons le traiter. Vous ne pouvez pas en faire une interprétation particulière. Vous ne pouvez pas sortir ce verset de son contexte. Son contexte est où?
Malachi.
Et quand est-ce que Malachi a écrit? Il y a longtemps qu'Ésaü était mort. Hein? C'est 400 ans avant Jésus-Christ que cela a été écrit. Comprenez-vous? Alors au lieu d'accuser Dieu, c'est à la fin de leur existence que Dieu a pu dire par le prophète qu'il avait haï Ésaü. Pourquoi? Parce qu'Ésaü a méprisé son droit d'aîné. Dieu avait donné le droit d'aîné à Ésaü. Mais sachant toute chose, il savait qu'Ésaü mépriserait son droit d'aîné. Alors il a annoncé à Rebecca que le plus grand sera asservi au plus petit. Mais quant à la question d'amour, l'amour de Dieu, il était aussi bien pour Jacob que pour Ésaü que pour Jacob. Mais Ésaü, sachant que Dieu avait donné, il lui avait donné le droit d'aînesse, quand il est revenu des champs, parce qu'il était le grand chasseur devant l'Éternel, il était fatigué, il a vu ce plat de lentilles, et puis Jacob lui a dit, « Oui, je veux bien te le donner, mais vends-moi ton droit d'aînesse. » Mon droit d'aînesse? Il s'en fichait éperdument. Il dit, « De toute façon, je vais mourir. » Donc il n'a pas cru à la promesse de Dieu. Il a méprisé le droit d'aînesse. C'est comme si aujourd'hui vous dites, moi, croire à l'enlèvement, moi j'y crois pas. Je vais mourir. Tu peux ne pas y croire. C'est pas une espérance pour toi. Mais alors tu deviens profane, tu méprises une grâce. Comprenez-vous? Alors donc, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Là, leur vie a été une manifestation. Et Jacob, si Dieu l'a aimé, c'est pas parce qu'il était très bien. Il était croche, comme vous dites. Hein, ici au Québec. C'est un mot que j'ai entendu, surtout ici, hein. Je suis croche, lui, il est croche. Il n'a pas fait des choses très, très heureuses, le pauvre Jacob. Mais à la fin de sa vie, bien, il a reconnu. Il est toujours revenu à Dieu. C'est le Dieu de la grâce. Et il a appelé Dieu son berger. Dieu qui a été mon berger. Il dira, le Dieu devant lequel mes pères ont marché, Abraham et Isaac. Il dit pas que lui, il a bien marché. Le Dieu devant lequel mes pères ont marché. Le Dieu qui a été mon berger. C'est-à-dire le berger qu'il a toujours ramené. Parce que lui, il n'a pas très bien marché. Mais Dieu a eu pitié de lui. Alors, que dirons-nous donc? Voilà la question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Parce que maintenant, vous avez replacé le verset dans son contexte. Donc, vous n'accusez pas Dieu. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde, à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion, de qui j'aurai compassion. Alors là, vous devriez de nouveau vous dire, à quel endroit ça se trouve? Dans le livre de l'Exode. Quand le peuple a péché après le veau d'or, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un entretien entre Moïse et le Seigneur, et Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Hein, fais-moi voir ta gloire. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit qu'on ne peut pas voir sa face et vivre, mais qu'il le verra par derrière. Et c'est à ce moment-là, quand il a passé, en cachant dans le creux du rocher Moïse, pour le laisser vivre, qu'il lui a
lis ces paroles. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, je ferai grâce à qui je ferai grâce. Donc Dieu est Dieu, il a le droit de faire grâce. Alors vous retrouvez ici le même enseignement que dans la parabole que Jésus a donnée au sujet des ouvriers de la 11e heure, n'est-ce pas? Il a traité avec les ouvriers de la première heure, qui ont travaillé à 6 heures du matin, pour un denier, hein, ils sont mis d'accord, et un accord pour un denier. Mais les ouvriers de la 11e heure, il leur donne aussi un denier. Alors, il y a des réclamations des premiers ouvriers qui trouvent que Dieu est, que le maître est, hein, et dit, mais vous êtes tombés d'accord avec moi? Et si moi, je veux donner plus au deuxième, donc je ne vous fais pas tort, je ne vous fais pas tort. Est-ce que ça vous ennuie que je sois bon? Est-ce que vous ne pouvez pas vous réjouir que quelqu'un d'autre ait une grâce que peut-être vous n'avez pas reçue? Mais réjouissez-vous qu'il ait cette grâce. Comprenez-vous? Nous devons changer de tempérament. Alors, ces chapitres peuvent beaucoup nous aider et de comprendre que Dieu est bon, que Dieu est le Dieu de grâce, que quant à moi, je ne méritais que la condamnation et la mort. Donc, si je suis sauvé, c'est par grâce. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Mais de nouveau, vous ne devez pas sortir ce verset de son contexte parce que vous ne le comprenez pas, que vous pouvez penser que Dieu est injuste. Remettez tout cela dans son contexte, allez lire Exode, chapitre 9, et tous ces chapitres du commencement de l'Exode, et vous voyez d'abord au chapitre 5, quand Moïse est envoyé vers le Pharaon, qu'est-ce que le Pharaon lui dit? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et il n'a pas voulu entendre parler du Seigneur, et il a endurci son cœur, il ne veut rien entendre, et il afflige davantage le peuple. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous l'ai dit, cette fois, il endurcit son cœur, puis après il a dit que Dieu endurcit son cœur. Et dans le chapitre premier des Romains, il y a un verset qui nous dit aussi que quand on refuse, ayant connu Dieu, qu'on ne le glorifie pas comme Dieu, eh bien, le Seigneur peut nous livrer à un esprit réprouvé. C'est quelque chose de terrible. Hein. On lave la patience de Dieu, puis Dieu, à un moment donné, dit non. Eh bien, voilà, je vous laisse aller. Et alors, le cœur s'endurcit. Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Alors, quand vous sortez ce verset-là, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Quelle est la volonté de Dieu? Que les gens soient perdus? Qu'est-ce que vous lisez au sujet de la volonté de Dieu? Dans d'autres versets. La volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et ça, c'est le chapitre 12 des Romains. Mais si vous allez au chapitre 2 de la première épître à Timothée, qu'est-ce que vous apprenez au verset 4? La volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. N'est-ce pas? Alors, vous comprenez que vous ne pouvez pas isoler ce verset et en donner une interprétation particulière, comme si la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des perdus. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De sorte que ce n'est pas du côté de Dieu que ça cloche, c'est de notre côté. Dieu n'est pas croche, c'est nous qui sommes croches. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et l'incrédule se permet de contester avec Dieu. Il aurait mieux fait que Dieu, hein, dans la création. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a préparé? Non. A portée. Notez bien cela. Chaque mot a son importance, parce que sans ça, vous tordez les Écritures. Il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Mais est-ce que c'est Dieu qui les a formés pour la perdition? Non. C'est nous qui nous formons pour la perdition. On n'a pas été formés d'avance pour la perdition. Mais, étant des vases de colère, eh bien, le Seigneur nous a supportés. Donc, vous voyez, on dit toujours, pourquoi est-ce que Dieu, par exemple, ne se débarrasse pas de Saddam Hussein? C'est ce que certains pensent, hein. Pas les Arabes, mais d'autres. Mais peut-être parce que Saddam Hussein a quelque chose à nous dire. Mais aussi parce que Dieu peut être. Est-ce que vous avez déjà prié pour lui? C'est un type qui était malheureux dans sa jeunesse. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas pour ces hommes? Pour que Dieu aussi puisse leur faire grâce. Je sais, quand on dit des choses comme ça, on nous montre du doigt. Quand j'ai dit un jour, je me souviens en France, que je priais pour Khrouchtchev. Bon, c'était presque un communiste. Non, mais pourquoi est-ce que Khrouchtchev ne serait pas sauvé? Puis on croit qu'il a été sauvé, hein. En finale, c'était tourné vers Dieu. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Qui est-ce qui est préparé pour la gloire d'avance? Les vases de miséricorde. Donc, ce qui vous montre que vous êtes élus dès avant la fondation du monde. Mais il n'a pas préparé d'avance des vases de colère. C'est nous-mêmes qui nous préparons la colère. Mais là, il est bien dit, il a supporté avec une grande patience des vases de colère. Et pourquoi est-ce qu'il les supportait avec une grande patience? Pour qu'il ait le temps de se convertir. Ils ne sont pas prédestinés à la perdition, mais s'ils continuent dans ce chemin-là, ce seront des vases de colère, et il le montre. Tandis que les croyants, donc, s'il a fait connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est ça qui vous donne l'assurance d'un salut éternel. Nous étions préconnus dès avant la fondation du monde. Vous avez eu une place dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Et à quoi vous destinait-il? Lisez le chapitre 8 des Romains, verset 29. Ceux qu'il a préconnus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est la conclusion qu'il veut dire, n'est-ce pas? Que vous soyez Juif ou que vous soyez païen, vous pouvez être appelé. Ce n'est pas votre nationalité qui fait quelque chose, ce ne sont pas vos œuvres, mais c'est l'appel de Dieu. Dieu est souverain. Mais quant aux hommes, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus. De sorte que si il y a des sauvés, c'est uniquement par grâce. De sorte que vous ne pouvez jamais vous glorifier d'être un sauvé. Mais vous pouvez glorifier Dieu qui vous a sauvé. Comprenez-vous? C'est tout autre chose. Mais vous ne vous glorifiez pas. Ainsi, il nous a appelés. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Alors là, vous voyez qu'il y avait déjà une promesse concernant les païens dans l'Ancien Testament. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, donc les païens, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimé. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. On peut être appelé fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nom des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas voulu croire. Alors, les prophéties s'accomplissent. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Hein? Et puis vous voyez, promptement, il y a une accélération à la fin des temps des événements. Hein? Il l'exécutera promptement. C'est un temps très court. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous veut pas laisser une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été comme Gomorrhe. Mais il y aura des sauvés parmi les Juifs. Hein. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, puisqu'ils étaient simplement conduits par leur conscience, ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Parce que les païens, quand ils ont entendu l'évangile, ils ont cru. Et ils ont été sauvés. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, c'est-à-dire qui prétendait, nous avons la loi, qui était juste, hein, mais il prétendait qu'il pouvait l'accomplir. Et Dieu avait dit, faites ces choses et vous vivrez. Ils ont dit, oui, nous ferons tout ce qu'il nous a dit, nous le ferons. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sous la loi, ils sont devenus transgresseurs. Ils étaient pécheurs, mais ils ne réalisaient pas ça. Ils ont cru qu'ils avaient la force d'accomplir la loi. Dieu leur a donné la loi, mais la loi, loin de les conduire à la vie, a fait d'eux des transgresseurs, a été la manifestation de leur péché. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, parce qu'Abraham, il a cru Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. Ce n'est pas ses œuvres qui l'ont sauvé. C'est la foi. Il crut Dieu. Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et les religions aujourd'hui, c'est toujours des œuvres. Vous faites des bonnes œuvres que vous serez sauvés. Comme vous n'en êtes pas sûr, alors vous espérez être sauvé. Tandis que celui qui sait, qui n'est pas capable de faire une bonne œuvre, sans que ce soit le Seigneur qui l'accomplisse en lui, eh bien, il est sûr d'être sauvé. Mais pas à cause de lui, mais à cause de Jésus. Comprenez? Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Qui est la pierre? C'est le Christ, n'est-ce pas? Et cette pierre a été en Sion. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, parce que Jésus était la pierre qui devait terminer l'édifice d'Israël, mais cette pierre ayant été rejetée, alors qu'elle devait être la pierre du fait, elle est devenue la pierre angulaire d'un nouvel édifice qui est l'Église. Comprenez-vous? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la pierre angulaire, et c'est ce que Jésus avait dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, sur ce roc de sa confession. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Alors voilà. Maintenant, quand vous parlez de prédestination, puisque Dieu nous a prédestinés, on vous dit, mais moi, si je ne suis pas prédestiné à être sauvé, donc je suis perdu, alors peu importe. Si je dois être sauvé, je serai sauvé. La prédestination, c'est un secret de famille, si j'ose dire ainsi, pour que vous compreniez bien. Et vous n'avez pas à parler de prédestination à les gens du monde. Ou bien, les gens du monde, ils viennent toujours avec cette idée de prédestination. Ils disent, si je suis prédestiné, je serai sauvé, de toute façon je mène ma vie, et si je dois être sauvé, je serai sauvé. Ou bien alors, quand ils disent que Dieu est injuste, parce qu'il y aurait des prédestinés au salut. Je dis ceci, est-ce que tu es allé à Jésus et qu'il t'a rejeté? Toi qui dis que tu n'es pas prédestiné. J'ai jamais rencontré une personne me dire que Jésus l'a repoussé. Mais on n'y est pas allé et on ne veut pas y aller à Jésus. Parce que si on va à Jésus, la vie change. On a une autre direction. C'est ça la conversion. C'est un changement de religion, c'est un changement de direction, c'est un changement d'orientation. Comprenez? Alors, les gens qui prétendent qu'ils ne sont pas prédestinés, c'est des gens qui ne veulent pas du salut. Et ils prennent ce prétexte de la prédestination. Tandis qu'on a donné cette image, un voyageur qui est chargé, qui monte un chemin, puis il voit à un moment donné un écriteau au-dessus d'une grande porte d'accueil qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous soulage. Venez à moi. » L'homme qui est là, il dit « Mais ça correspond à mon état, je suis fatigué, je suis chargé. » Et il entre par la porte. Et une fois qu'il est dedans, qu'est-ce qu'il lit ? Vous étiez prédestiné. N'est-ce pas ? De toute éternité. On apprend qu'on est prédestiné après avoir fait le pas. Et ça nous donne une assurance. C'est pour ça que je dis que c'est un secret de famille. C'est une fois que vous êtes enfant de Dieu que Dieu vous apprend qu'il vous avait prédestiné. Et qu'il vous aime. Et que vous aviez une place dans son cœur dès avant la fondation du monde. Mais tant que vous êtes sur la route, fatigué et chargé, l'invitation est pour vous. Le Seigneur vous invite tous, comprenez-vous ? Mais une fois qu'on est au Seigneur, on sait qu'on est prédestiné. Il nous révèle son secret. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais rendez gloire à Dieu et donnez-lui toute justice. Frère, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour vous, pour eux, non pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Alors, ils parlent de leur religion, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, donc ils ne les décrivent pas, mais sans intelligence. Et c'est ce qu'il y a encore dans bien des églises. On a du zèle, mais sans intelligence, parce que l'intelligence vient de la parole de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice, et ne sont pas soumis à la justice de Dieu. On veut toujours faire des œuvres. Toutes les religions vous parlent de bonnes œuvres. Et que c'est par les œuvres, que vous soyez dans l'Inde, quand on parle aux hindouistes ou aux bouddhistes, j'ai eu l'occasion de leur parler, c'est des gens qui ne sont pas sûrs de leur salut parce qu'ils se basent sur leurs œuvres. Alors, comme il y a bien des manquements aussi, ils ne sont pas sûrs. Parce qu'ils veulent établir leur justice. Or, la vraie justice, elle vient par la foi. Car Christ est la fin de la loi. Nous ne sommes plus sous une loi des œuvres. Pour la justification de tous ceux qui croient. Quand on a trouvé Christ, on a trouvé le salut. Il est le salut. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais est-ce que l'homme a pu ?
Non.
Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ, mais le Christ est descendu. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Le Christ est déjà remonté d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quelle parole ? C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais il faut que ce soit une foi du cœur, pas une adhésion intellectuelle à ces vérités chrétiennes. Il faut que ce soit le cœur qui soit touché par Dieu, regarde au cœur. Mais si ton cœur a été touché et si tu crois au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y aura sur tes lèvres ? Une confession, parce que si tu n'oses pas confesser Christ, je doute que le Seigneur soit vraiment dans ton cœur. De ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Et vous n'avez pas de peine à dire que le Christ est votre sauveur. Mais si vous dites que le Christ est votre sauveur, vous avez une histoire à raconter. De quoi il vous a sauvé ? Il ne vous a pas sauvé de rien du tout. Il vous a sauvé de vous-même d'abord. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc vous voyez que le salut, il est pour quiconque, il est pour tous. Voilà qui remet toutes choses en place. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoque, mais il faut l'invoquer, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On aurait bien des choses à dire là-dessus. Mais comment donc invoqueront-ils alors celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà pourquoi on est prédicateur, pourquoi on est appelé à présenter l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On ne s'envoie pas soi-même. On est appelé et on est envoyé. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Pas seulement les paroles, mais les pieds. Pourquoi? La marche. Il faut qu'on ait une marche qui corresponde. Quand on voit quelqu'un marcher, quand Jean-Baptiste voyait marcher Jésus, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Est-ce que notre marche correspond à nos paroles? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, c'est l'évangile, dont nous n'avons pas à avoir honte. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est le 53 d'Esaïe, qui est le chapitre de ma conversion il y a 60 ans. Chapitre 53 d'Esaïe, quand j'ai lu ce chapitre, c'est là que le Seigneur m'a trouvé. Qui a cru à notre prédication? Vous voyez, ce sont tous des textes de l'Ancien Testament que vous allez retrouver dans l'Ancien Testament, chapitre 53 d'Esaïe. Ainsi, la foi vient, quand on me demande... Il y a une personne qui m'a été envoyée puis qui m'a dit je viens vous trouver pour savoir si j'ai la foi. Alors qu'est-ce qu'il est dit ici? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Avez-vous entendu la parole du Christ? La croyez-vous? Mais je dis n'ont-ils pas entendu, au contraire? Leur voix est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ça, c'est la conversion des païens. Et il est montré qu'elle était annoncée déjà, cette conversion des païens, dans l'Ancien Testament. Mais on ne savait pas encore ce que serait l'Église, comprenez-vous. Mais au sujet d'Israël, il est dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Bien voilà. Au fond, Israël, au sang du Christ, a refusé le Christ. Jésus leur a étendu les mains. Puis qu'est-ce qu'on y a fait avec ses mains? On les a clouées. Alors, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité de Benjamin, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Là, vous n'avez pas de problème, hein? Vous savez qu'il a connu d'avant. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, le prophète, comment il adresse à Dieu sa plainte contre Israël? Même voilà un juif, un israélite comme Élie, à un moment donné, il n'en pouvait plus comme prophète au milieu d'Israël. Et il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté, elle cherche à monter la vie. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Tu crois qu'il est tout seul, sauvé? Pauvre ami, ne pensez pas que vous êtes les seuls sauvés. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et pourtant, ils vivaient au temps d'Élie et Élie ne savait pas. Il croyait qu'il était tout seul et il y en avait 7000. Ne pensez pas que vous êtes tout seul. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Quand vous entendez la parole et que, au lieu de l'accepter, vous vous endurcissez, eh bien, on s'éloigne. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Mais c'est après combien de temps de patience qu'il ait dit cela? Il faut remettre ce texte dans son contexte, et vous voyez que dans son contexte, Dieu a donné du temps pour qu'ils se repentent. Mais quand vous ne voulez pas vous repentir, vous tombez dans l'assoupissement, dans le sommeil. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Quand vraiment, n'est-ce pas, on n'a plus que les formes et qu'on maintient seulement les formes de la religion, ça devient un piège. Oh, moi je m'en vais à la messe tous les jours, je m'en vais au culte tous les dimanches, ça me suffit. Votre table, votre culte devient un piège. Ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonges disant c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Mais vivez votre christianisme. Parce que c'est un filet, une occasion de chute. Si vous n'avez qu'une religion, vous êtes perdu. Il vous faut un sauveur. Et c'est le même sauveur pour tous, quelle que soit votre religion de naissance. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé, alors que le Seigneur est venu pour nous délivrer de tout fardeau. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Mais pas, puisque Israël n'a pas voulu recevoir Jésus, eh bien, l'évangile a été annoncé aux païens. Alors les juifs sont devenus jaloux. Mais nous, nous sommes reconnaissants aux juifs quand même, parce que c'est d'eux que nous avons l'évangile. Or, si leur chute a été la richesse du monde, parce que c'est le monde qui a été évangélisé, ce n'est plus Israël, leur chute a été la richesse du monde, puisque vous n'en voulez pas, je donnerai à d'autres, en multitude. Et leur amoindrissement a été la richesse des païens, mais d'où avons-nous cette richesse? D'eux, comprenez-vous, c'est pour ça qu'on ne peut pas les maudire. Combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc il y a une promesse de conversion pour Israël. Mais croyez-le, c'est Dieu qui fera ce travail-là. Ce n'est pas notre exemple, parce que ce qu'on a fait, on a fait les camps de concentration pour eux. De sorte que notre exemple ne peut pas les convertir. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Ainsi, s'il est possible d'exciter à jalousie ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart, vous voyez qu'il est dit que ce n'est pas leur rejet, leur mise à l'écart. Pour un temps, Israël a été mis à l'écart. A été la réconciliation du monde païen, que sera leur réintégration, sinon un passage de la mort à la vie, une vraie résurrection. Or, si les prémices sont faites, les prémices c'est les premiers fruits, et les premiers fruits qui étaient, c'était les apôtres, n'est-ce pas? Les premiers juifs convertis, c'était les apôtres. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine, c'était Abraham. Hein? Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ce qui est arrivé en 70, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et vous voyez, alors là, c'est quelque chose de contre nature. Vous connaissez quand même un petit peu la greffe. Hein? On ne greffe pas une branche sauvage sur un olivier franc. Hein? C'est le contraire qu'on fait. Hein? On greffe le bon fruit, ce qui doit donner du bon fruit, sur un olivier sauvage. Hein? Mais là, c'est des branches. C'est un greffage qui est contre nature, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait cela. Mais souvenons-nous que nous sommes des branches seulement. Hein. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, donc les juifs n'ont pas voulu, vous l'avez voulu, alors vous êtes greffé à leur place, et vous êtes rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. C'est pour ça que vous ne pouvez jamais rejeter l'Ancien Testament. Vous avez tout qui vient de là. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est beau ça. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour quelle cause ? D'incrédulité, pas parce que Dieu les aimait pas, mais eux n'ont pas voulu. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains que l'Église ne se glorifie pas. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc les Juifs, qui étaient les branches naturelles de l'olivier, hein, il ne t'épargnera pas non plus. Vous comprenez le danger ? C'est que si l'Église, si les croyants dans la chrétienté ne sont pas ce qu'ils doivent être, ne vivent pas la vie du Christ, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront retranchés. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, la sévérité qu'il a eue vis-à-vis des Juifs, oui, mais aussi sa bonté envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc ils sont un exemple pour nous. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi qui as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, et greffé contre ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon la nature de leur, sur leur propre olivier. Quand il y aura la conversion d'Israël, ce sera quelque chose de fantastique. Et vous savez, quand je vais en Israël et que je vois que la Bible est le livre qu'on enseigne dans toutes les écoles, et ils connaissent la Bible comme les chrétiens ne la connaissent pas, parce qu'au lieu de lire Homère et tout ce que vous voulez, comme on nous faisait lire à nous d'autres autrefois, hein, d'autres livres plus ou moins païens, eh bien, c'est la Bible qui est le livre national du peuple. Et alors, ils ont une connaissance extraordinaire, mais c'est encore une connaissance intellectuelle, mais quand l'esprit soufflera, eh bien, il y aura un réveil fantastique. Et ce seront des hommes qui seront capables de prêcher la parole sans avoir besoin d'avoir une Bible pour la consulter. Ça sera dans leur cœur, comprenez-vous? Ils l'ont déjà dans le cœur. Ce seront des maris qui récitent le Magnificat spontanément comme cela, parce que la parole est dans leur cœur. Alors, je vois toute une préparation qui se fait là, en Israël. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Il y a une dispensation spéciale pour Israël, et c'est quelque chose d'assez unique. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis maintenant, à cause de vous. Vous comprenez pas qu'on était... On est un scandale pour eux, bien souvent, hein, à cause de vous, ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Est-ce que Dieu n'accomplira pas les promesses qu'il a faites à Abraham? Bon, il les accomplira. Hein. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, si un temps il a été dit « pas mon peuple », ils seront de nouveau appelés son peuple. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et c'est la conclusion qui est l'adoration. Hein? On y arrive quand même. Aux profondeurs. Je me souviens, pendant une semaine sur le Mont Carmel, j'ai prêché seulement sur ces quatre versets. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On n'aurait pas fait comme ça. Mais voilà, Dieu a ses desseins, il est souverain, et nous le reconnaissons et nous adorons. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Le libérateur viendra de Sion. Qui convertira les Juifs? La venue du Messie, le retour en gloire. Et je me souviens toujours qu'un jour à Jérusalem, j'ai entendu Menahem Begin, qui était le président à ce moment-là, dire « Notre libération ne peut venir que par la venue du Messie. » Dieu notre Père, nous voulons te bénir parce que tu nous fais entrer dans ta parole. L'entrée, la révélation de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. Donne-nous de ne pas contester avec toi. Mais donne-nous de nous approprier cette parole. Donne-nous de la lire comme tu veux que nous la lisions et que nous recherchions toujours la lumière par d'autres textes, puisque toute l'écriture est inspirée de toi. Et prépare-nous pour cet après-midi dans ton amour. Amen.